Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Le président américain Joe Biden reçoit son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, à la Maison-Blanche. Au Nigeria, le chef de l'armée annonce la mort du leader du groupe État islamique, Abu Musab al-Barnawi. Au Cameroun, un gendarme tue une fillette qui se rendait à l'école à Boya, en zone anglophone. L'Iran met en garde Israël contre toute aventure militaire contre son programme nucléaire. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden reçoit à Washington son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Il s'agit du premier chef d'État africain à être reçu à la Maison-Blanche par le président démocrate. Les précisions de John Linden.
Les deux dirigeants vont aborder ce qui est qualifié de solides relations bilatérales ainsi que le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux, a fait savoir la Maison-Blanche avant la rencontre. Démocratie, droits humains, promotion de la paix et de la sécurité, les changements climatiques seront également au menu des discussions, a précisé la Maison-Blanche. Autre sujet qui pourrait être évoqué, le commerce. L'administration Trump avait entamé avec le Kenya des discussions sur un accord de libre-échange, mais l'équipe de Joe Biden n'a, selon Nairobi, pas repris pour l'heure les négociations. Lors de la signature à New York lundi de contrat avec des hommes d'affaires américains, M. Kenyatta n'a pas fait mystère de sa frustration à ce sujet. Le Kenya s'inquiète de voir approcher la date d'expiration en 2025 d'un accord qui dispense très largement ses exportations vers les États-Unis de droits de douane.
Retour à l'actualité sur le continent. Le chef du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, Abu Musab al-Barnawi, est mort, a déclaré le chef d'état-major nigérian, le général Lucky Irabor. Pour l'heure, ISWAP n'a pas confirmé sa mort. Nathalie Barge.
Lors de la conférence de presse, le général Lucky Irabor n'a pas précisé les circonstances du décès du leader du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, qui a déjà été donné pour mort par les autorités nigérianes par le passé. Abu Musab al-Barnawi est le fils de Mohamed Youssouf, le fondateur de la secte Boko Haram à Maïdougouri. Il a pris de l'importance après avoir fait scission en 2016 en raison de différends avec son leader Aboubakar Shekau, décédé en mai dans des combats entre les deux factions dans la forêt de Sambisa. Depuis la mort de ce dernier, Barnawi a consolidé le contrôle de son groupe dans la région du lac Tchad et le nord-est du pays, multipliant les attaques d'ampleur contre l'armée. La violence des groupes djihadistes dans cette région du Nigeria a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis le début de l'insurrection du groupe Boko Haram en 2009.
Au Cameroun, tension ce jeudi à Bouéa, dans le sud-ouest du pays en zone anglophone, après qu'une fillette de 6 ans a été tuée par balle par un gendarme en service. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
La fillette est décédée sur le champ, au quartier populaire de Moliko à Bouéa, tôt ce matin, à bord du véhicule de sa mère qui la conduisait à l'école. Selon des sources administratives et des sécurités de Bouéa, la mère de l'enfant a refusé d'obtempérer à un tiers-pointe. L'un des gendarmes en service a alors fait usage de son arme et atteint au crâne la fillette, assise sur la banquette arrière du véhicule. Suite à ce drame, les populations ont envahi les rues de Bouéa et ont paradé avec la dépouille de la fillette en direction du gouvernorat. Bernard Okalaï Bilaï, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, a rencontré la population et a promis des sanctions.
J'ai rassuré la population que les auteurs de l'incident, toutes catégories confondues, vont être sanctionnés, punis conformément à la loi en vigueur dans notre pays. C'est un choc parce que nous sommes tous des parents.
Le calme est revenu dans l'après-midi à Bouéa. Plusieurs responsables des organismes des droits de l'homme locaux ont condamné ce meurtre. Depuis le déclenchement du conflit séparatiste il y a 5 ans, de nombreuses bavures ont été attribuées aux forces de défense en zone anglophone. Quelques-unes ont été sanctionnées par l'armée. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 13 personnes ont été tuées, plusieurs blessées, une cinquantaine de maisons incendiées en 3 jours de violence entre deux communautés rivales qui se disputent des terres dans le nord-ouest du pays. Au Rwanda, 6 personnes, dont l'animateur d'une chaîne YouTube et 3 membres d'un parti d'opposition, ont été arrêtées hier, accusées de répandre des rumeurs visant à saper le gouvernement. Parmi les 6 personnes arrêtées figurent Toneste Nsengimana de la chaîne YouTube Umubavu TV. La chaîne avait appelé à dénoncer de prétendues violations des droits humains menées par le gouvernement. Le Burundi, un des derniers pays du monde à ne pas avoir commencé à vacciner sa population contre le Covid-19, a reçu ce jeudi ses premiers vaccins lors d'une cérémonie officielle à Bujumbura grâce à un don de la Chine de 500 000 doses du vaccin Sinopharm. Au Sénégal, l'activiste Guy Marius Sagna a été condamné à une peine de 3 mois avec sursis suite à un post sur Facebook dans lequel il s'attaquait à la gendarmerie et à son haut commandant. Il était accusé de diffusion de fausses informations et jeté le discrédit sur la gendarmerie nationale. Le parquet avait requis une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme et 200 000 francs CFA d'amende. En Gambie, Essa Fahal, ancien procureur à Banjul et candidat à l'élection présidentielle de décembre, promet de poursuivre l'ancien leader gambien Yahya Jammeh s'il est élu président. Monsieur Fahal a été avocat au sein de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Depuis septembre, une alliance a été annoncée entre le parti de l'actuel président Adama Barrow et celui de Monsieur Jammeh en vue de la présidentielle à laquelle Monsieur Barrow compte se représenter.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a averti Israël de ne pas tenter d'aventure militaire contre son programme nucléaire dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU. L'État hébreu a affirmé hier se réserver le droit de recourir à la force contre Téhéran. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Nous mettons en garde contre toute erreur de calcul et toute aventure militaire du régime israélien contre l'Iran, a écrit Majid Takhtarvanchi, ambassadeur iranien à l'ONU. Hier, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid avait indiqué lors d'une conférence de presse à Washington avec son homologue américain Anthony Blinken qu'Israël se réservait le droit d'utiliser la force pour empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Le secrétaire d'État Blinken a également déclaré que Washington est prêt à se tourner vers d'autres options si l'Iran ne change pas de direction. Par l'accord de Vienne en 2015, l'Iran s'était engagé à renoncer à l'arme atomique. L'administration Trump est par la suite sortie de l'accord de Vienne. Enrique Mora, le négociateur de l'Union européenne sur le nucléaire iranien, a entamé aujourd'hui des entretiens à Téhéran avec Ali Bagheri, vice-ministre des Affaires étrangères chargé de ce dossier.
À Taïwan, 46 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble de 13 étages de la ville de Kaohsiung dans le sud. Le brasier a ravagé plusieurs étages avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser. C'est l'un des incendies les plus meurtriers dans un immeuble d'habitation depuis 20 ans dans le monde. En Norvège, l'attaque à l'arc, qui a fait 5 morts, ressemble à ce stade à un acte terroriste, ont estimé les services de sécurité, confortant la piste du terrorisme islamiste. L'auteur présumé de l'attaque est un citoyen danois de 37 ans, converti à l'islam et suspecté par le passé de radicalisation. Au Liban, des combats de rue ont opposé des hommes armés à Beyrouth après des tirs lors d'une manifestation organisée par les mouvements chiites, Hezbollah et Hamal. Des violences qui ont fait 6 morts et ravivé le spectre de la guerre civile. Les affrontements se sont déroulés près du palais de justice où se sont massés des partisans des deux mouvements pour exiger le remplacement du juge Tarek Bitar, chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth l'an dernier, qui veut interroger de hauts responsables, dont 2 ex-ministres d'Amal. À l'étranger, la France a appelé à l'apaisement et les États-Unis à la désescalade, les deux pays insistant sur l'indépendance de la justice. Le président américain Joe Biden, catholique pratiquant, et son épouse Jill Biden seront reçus au Vatican par le pape François le 29 octobre, a fait savoir aujourd'hui la Maison-Blanche.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Linden.
Au Gabon, la production pétrolière a connu une chute de 11,5% au cours du premier semestre cette année. Selon la direction générale des hydrocarbures citée par Financial Afrique, cette production se situe à 4,96 millions de tonnes métriques, alors que les exportations se sont établies à 4,38 millions de tonnes, soit une baisse de 14,9%. 85% des exportations de brut gabonais sont destinées à l'Asie. La valeur totale des obligations cotées émises en Afrique par les gouvernements et entreprises a atteint 536,1 milliards de dollars à fin juin 2021. C'est ce que révèle le groupe bancaire sud-africain ABSA. Selon l'agence Ecofin, trois pays concentrent plus de 68% de la valeur boursière de ces produits financiers. L'Afrique du Sud, avec une part de 258 milliards de dollars, fait office des géants, suivi de l'Égypte, 116,9 milliards de dollars, et du Nigeria, 49 milliards de dollars. L'économie mondiale est confrontée depuis des mois à des engorgements sur les chaînes logistiques qui alimentent l'inflation et menacent la croissance. Cette problématique était au cœur des réunions du FMI, de la Banque mondiale, du G20 et du G7 Finance à Washington. C'était mercredi. Aux États-Unis, plusieurs entreprises dont Walmart, FedEx ou encore UPS se sont engagées à travailler plus la nuit pour accélérer l'acheminement de leurs conteneurs hors des ports.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La suite de cette affaire au Kenya, la police est à la recherche du mari d'Agnès Tirop, prometteuse athlète de 25 ans dont le meurtre révélé a suscité l'émotion dans le pays et dans le monde de l'athlétisme. Tom Makori, commandant de police, a affirmé qu'Emmanuel Rotich, mari d'Agnès Tirop, est le principal suspect. Il a passé un appel aux parents de Tirop pour leur dire qu'il avait fait quelque chose de mal, donc nous pensons qu'il sait ce qu'il s'est passé, a-t-il expliqué. La double médaillée mondiale du 10 000 mètres et quatrième des derniers Jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres a été retrouvée morte, poignardée chez elle à Iten, dans l'ouest du Kenya, où s'entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond. Tennis, la Tunisienne Hans Jaber est assurée de devenir dès lundi prochain la première joueuse de tennis d'un pays arabe à entrer dans le top 10 mondial après sa qualification pour les quarts de finale du tournoi d'Indian Wells. Jaber, 27 ans, n'a eu aucune difficulté à franchir lors du tournoi californien l'obstacle de la Russe Anna Kalinskaya pour remporter sa 47e victoire cette année. Jaber est assurée d'être au moins 9e au classement WTA lundi. Elle était 14e après sa qualification pour la finale du tournoi de Chicago, perdue contre l'Espagnol Garbine Muguruza. C'était la meilleure position pour un joueur d'un pays arabe déjà occupé précédemment par le joueur marocain Younes El Aniaoui en 2003 et 2004. Football, le jeune milieu de terrain espagnol Pedri a prolongé son contrat avec le FC Barcelone de 4 saisons jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire d'un milliard d'euros, annonce le club dans un communiqué. Pedro González, dit Pedri, 18 ans, s'est révélé l'an passé avec le Barça. Il a aussi fait ses débuts avec la sélection espagnole et participé à la fois à l'Euro et aux Jeux Olympiques. Le grand espoir qui figure parmi les 30 finalistes pour le Ballon d'Or signera son contrat demain vendredi. Et pour finir, cette affaire qui se poursuit ici aux États-Unis, le meneur des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, estime que chacun a le droit de faire ce qui lui semble bon. Écarté des parquets par son club à moins de se faire vacciner contre le Covid-19, Irving soutient que personne ne devait être forcé de faire quoi que ce soit avec son corps. Le basketteur de 29 ans a été interdit mardi de s'entraîner ou de jouer par les Brooklyn Nets à moins de se résigner à recevoir ses injections. Les nouveaux protocoles de sécurité de la ville de New York empêchent les adultes non vaccinés de prendre part aux entraînements ou aux matchs.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, nommé en juillet 2020 par le président Félix Tshisekedi, le chef de l'inspection générale des finances, Jules Alain Guété, qui, économiste de 58 ans, a enregistré des résultats palpables dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Marius Munga, adjoint à Kinshasa, Jules Alain Guété, qui, patron de l'inspection générale des finances.
L'inspection générale des finances est un service public relevant de l'autorité directe du chef de l'État qui a été créé depuis le 15 septembre 1987 et là pour mission de veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques.
Qu'est-ce qui fait que cette institution en parle plus aujourd'hui qu'il y a quelques années?
Avec l'avènement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a appuyé l'inspection générale des finances, qui a laissé les mains libres à ses services de faire le contrôle et qui a mis la lutte contre l'impunité dans son programme, l'inspection générale des finances a repris les poils de la bête.
Vous pouvez nous dire avec précision combien avez-vous déjà fait retourner dans les caisses de l'État?
Notre travail, ce n'est pas seulement de retourner l'argent au compte de l'État, où nous encadrons également les régies financières pour mobiliser les recettes. Aujourd'hui, l'augmentation des recettes publiques que les finances publiques congolaises viennent d'enregistrer est aussi tributaire des efforts de l'inspection générale des finances. Je peux vous dire, tout récemment, il y a une semaine, nous avions récupéré 1,5 million auprès du ministère de l'Agriculture, des fonds qui étaient presque déjà détournés. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous avions récupéré plus d'1 million au niveau de la FECOFAD. Il y a plus de 2 mois, nous avions fait retourner 16 millions de dollars qui étaient destinés à la paye de l'organisation des tests des élèves.
Alors, dans un pays où nous savons qu'il y a beaucoup de corruption, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour ne pas tomber dans des pots de vin? Je parle particulièrement de vos agents.
Nous travaillons efficacement pour tout d'abord conscientiser nos agents. Nous avons travaillé pour améliorer leurs conditions. Aujourd'hui, si vous visitez l'inspection générale des finances, nos agents sont dans les meilleures conditions. Certains comprennent ça.
Donc certaines personnes vous accusent d'être un instrument utilisé par le pouvoir contre l'opposition. Que leur répondriez-vous?
Aujourd'hui, que nous avons un gouvernement appelé gouvernement de l'Union sacrée, composé essentiellement des membres aujourd'hui de la majorité au pouvoir. Nous avons déjà des problèmes depuis 3 mois avec beaucoup de membres du gouvernement. Je vous ai parlé du ministère du sport, du ministère de l'agriculture, le ministère de la formation professionnelle, où nous avions récupéré des fonds qui étaient en train d'être détournés avec l'opération que nous avions mis en place.
Jules Alain Guété, chef de l'inspection générale des finances en RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Nigeria semble se diriger vers le vote électronique. Sous la pression de la société civile et des Nigérians, le Sénat a finalement cédé et a donné à la Commission électorale nationale indépendante le pouvoir de déterminer le mode de transmission électronique des résultats. Ce sujet était tabou ces derniers mois pour la majorité des parlementaires qui ne voulaient pas entendre parler de la transmission électronique des résultats des élections. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le sujet fait l'objet d'un débat âpre dans tout le pays. Depuis juillet dernier, lorsque la loi électorale a été modifiée, les députés et sénateurs refusant d'autoriser la transmission électronique des résultats. La société civile et de nombreux Nigérians ont critiqué les représentants au Parlement fédéral, les accusant d'encourager les fraudes électorales. Mardi, les sénateurs ont décidé de revenir sur leur décision en acceptant la transmission électronique des résultats des élections au Nigeria. Le sénateur Ike Ikweremadu a soutenu le projet de loi.
Les opérations de vote durant une élection et la transmission des résultats sous cette nouvelle loi doivent être en conformité avec la procédure mise en place par la Commission nationale électorale.
Les experts affirment que la transmission électronique des résultats rendrait les élections plus transparentes et plus crédibles. Cynthia Mbamalou est la directrice des programmes à IAGA Africa, une ONG locale engagée dans la promotion de la gouvernance démocratique, des droits de l'homme et de l'engagement civique.
Cette loi adoptée va promouvoir la transparence et la crédibilité du processus électoral, s'agissant surtout de la gestion des résultats des élections. Depuis le retour à la démocratie en 1999, le taux de participation aux élections au Nigeria baisse de plus en plus, parce que la majorité des électeurs ne font plus confiance au système électoral.
Pour la directrice du Centre pour la transparence, en fait, Mwadichi, c'est la meilleure voie à suivre pour changer le système électoral du pays.
À mon avis, on ne devrait pas perdre d'énergie et de ressources pour tenter de convaincre les représentants du peuple que c'est la voie à suivre pour notre processus électoral. C'est donc une bonne nouvelle. Je les félicite pour ce revirement à 360 degrés et d'écouter la voix des populations qu'ils représentent.
La Commission électorale nationale indépendante est désormais habilitée à déterminer le meilleur mode de transmission électronique des résultats électoraux après la promulgation de l'amendement par le président Muhammadu Buhari. Cependant, la CENI pourrait faire face à un manque d'électricité et à une faible couverture du réseau d'Internet dans certaines parties du pays. Le commissaire à l'information de la CENI reconnaît qu'il y a encore des problèmes à résoudre pour rendre le processus plus transparent. Festus Okoyi.
Je pense que c'est un grand pas, mais il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des problèmes essentiels que la commission doit prendre en considération. Premièrement, notre système de compilation des résultats est toujours manuel et ce système figure dans l'article 62 de la loi électorale.
L'élection du gouverneur d'État d'Anambra dans le sud-est est prévue en novembre prochain, un État jusqu'ici gouverné par l'opposition. Mais on ne sait pas encore si le président donnera son feu vert à l'amendement avant ce scrutin jugé très important pour les deux grands partis, l'APC du président Buhari au pouvoir et le PDP, principal parti d'opposition au Nigeria. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le tribunal civil de Bruxelles a entendu ce matin les plaidoiries dans le cadre d'une plainte déposée contre l'État belge pour crimes contre l'humanité par 5 femmes métisses nées en RDC entre 1946 et 1950, deux mères congolaises et deux pères belges. Comme de nombreux enfants métisses, ces femmes ont été arrachées à leur foyer alors qu'elles étaient petites pour être placées dans des orphelinats. Les plaignantes réclament justice à la Belgique. Nanit Talani, adjoint à Bruxelles, maître Sophie Coleman, l'une des avocates des victimes.
Pourquoi ce procès? Eh bien, parce que cela fait maintenant de nombreuses années que les métis du Congo, Rwanda, Burundi demandent à l'État belge de pouvoir être reconnus comme victimes de la ségrégation ciblée dont ils ont fait l'objet, mais surtout des enlèvements forcés dont ils ont été les victimes, et que même si la Chambre des représentants et le gouvernement, au travers de son premier ministre, il y a maintenant 2 ans, a présenté des excuses à la communauté métisse, ça s'est arrêté là. Il n'y a jamais eu d'indemnisation, il n'y a jamais eu de réparation. Et donc, nos 5 clientes ont pris leur courage à deux mains pour lancer cette citation en justice. Et ce qu'elles demandent, c'est la condamnation de l'État belge à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi. Mais surtout, elles souhaitent que la justice nomme les faits dont elles ont été victimes, et ce sont des faits que nous qualifions de crimes contre l'humanité, et elles demandent donc la condamnation de l'État belge pour crimes contre l'humanité et une condamnation à les indemniser intégralement du préjudice qu'elles ont subi.
Que représente ce procès pour les victimes, mais aussi pour leurs familles?
Beaucoup d'espoir d'enfin avoir les faits nommés pour ce qu'ils sont, le crime nommé pour ce qu'il est, l'espoir que justice soit rendue, que justice soit faite. Et c'est vrai que c'est autant pour elles-mêmes que pour les générations à venir, parce que ce n'est pas uniquement symbolique, c'est sûr que ça aura un gros impact si le tribunal leur donne raison, un gros impact au niveau historique aussi, mais ce sont aussi 5 femmes qui sont victimes de ces enlèvements et de ces placements forcés et qui ont transmis à leurs propres enfants ce traumatisme quelque part. Et donc la reconnaissance des faits, ça passera aussi par plus de clarté sur leur histoire et sur leurs origines, et quelque part pouvoir léguer quelque chose à leurs enfants qu'elles n'ont pas pour le moment. Elles se retrouvent sans explication sur pourquoi cet enlèvement, sinon le fait que, comme on le sait tous maintenant, ces enlèvements étaient justifiés par l'État belge à l'époque en réalité. Par quoi? Par le souci de conserver c'était la suprématie de la race blanche et le métis faisait peur. Le métis était un danger et un danger qu'il fallait écarter.
Y a-t-il des chances que vos clientes obtiennent ce qu'elles demandent ?
Je pense oui, parce que sinon, on n'aurait pas lancé cette action. Ce n'est pas qu'une action purement symbolique, je vous le dis, c'est une action en réparation du dommage. Et donc, oui, il y a tout à fait des chances pour que le tribunal nous suive et nous donne raison, c'est évidemment ce qu'on espère.
Maître Sophie Colman, avocate des victimes. Le président Joe Biden a annoncé mercredi un plan visant à éliminer les retards de porte-containers au large des côtes de la Californie du Sud en lançant des opérations 24 heures sur 24 dans le port de Los Angeles. Les détaillants et fabricants américains subissent de graves pénuries. Le reportage de Mike O'Sullivan sur les problèmes qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Les navires attendent depuis des semaines au large des côtes. La demande américaine de marchandises importées d'Asie est montée en flèche alors que la nation lutte pour sortir de la pandémie. Jenny Siroka est le directeur exécutif du port de Los Angeles.
Les usines asiatiques affichent des niveaux de commandes records, mais restent en deçà des besoins de nos importateurs américains. Dans notre industrie, nous avons augmenté de 30% la capacité des navires dans le commerce transpacifique et nous laissons toujours du fret derrière nous.
La Chine est aux prises avec des pannes de courant et les usines chinoises tentent de répondre à la demande, ce qui crée un goulot d'étranglement dans le Pacifique. Près de 30 porte-conteneurs ont été amarrés mardi au large de la Californie du Sud. Le double de ce nombre attend, ancré ou à la dérive au large. C'est un problème pour Golden Groove Trading, une entreprise californienne qui vend des vêtements et des nouveautés en provenance d'Asie. Les frais de livraison ont grimpé en flèche, les consommateurs achetant des produits pour les fêtes de fin d'année. Yung Schultz est la fondatrice et PDG de Golden Groove Trading.
Si nous expédions un conteneur de 12 mètres de Shanghai à Long Beach, le coût était de 2 500 $. Et aujourd'hui, c'est 16 000 $, 17 000 $, 18 000 $ pour le même conteneur.
Le déchargement et le transit prennent désormais des semaines au lieu de jours dans les ports de Los Angeles et Long Beach. Des plaques tournantes cruciales pour l'économie américaine. Stephen Chung est le président du World Trade Center de Los Angeles.
Ces deux ports contrôlent plus de 40% de toutes les marchandises entrant par mer aux États-Unis.
Les entrepôts sont pleins, les voies ferrées sont obstruées et il n'y a pas assez de chauffeurs de camions à cause des perturbations liées au COVID. Et le problème est national. Jenny Siroka, directeur exécutif du port de Los Angeles.
Les projecteurs ont été braqués sur les ports du sud de la Californie parce que nous sommes la plus grande porte d'entrée, mais Seattle, Tacoma, Oakland et Savannah voient également beaucoup de marchandises et de navires attendre d'entrer et de sortir de leur port.
Le président Joe Biden lutte avec le Congrès au sujet du financement des infrastructures, notamment pour la modernisation des installations portuaires. Il dit que Walmart fait partie des détaillants qui ont accepté de transporter des marchandises en dehors des heures de pointe. De nombreux ports internationaux sont actifs 24 heures sur 24. Selon les analystes, une meilleure coordination tout au long de la chaîne d'approvisionnement va accélérer le flux de marchandises à travers la Californie. Le gouvernement et les entreprises doivent coopérer sur un plan, explique un expert de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Christopher Tang est professeur de commerce et de gestion à l'Université de Los Angeles.
We need to address the following question.
Nous devons répondre à la question suivante. Allons-nous dépendre des importations à l'avenir, pendant combien de temps, le volume, de sorte que nous ayons une meilleure compréhension, ou allons-nous relocaliser une partie de la chaîne d'approvisionnement vers les États-Unis ou se connecter avec le Mexique ou le Canada?
Christopher Tang dit que travailler sur les retards au large de la côte est la première étape. La deuxième étape serait de reconstruire l'infrastructure pour répondre aux besoins futurs de l'économie américaine.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h/24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente